France Musique. C'est l'été sur France Musique, le 7h30, 9h de Gabriel Oliveira Guyon, Musique Matin.
Merci cher Coco pour cet accueil. Bonjour, Musique Matin, nous sommes le vendredi 6 août et heureux de vous accompagner jusqu'à 9h avec quelques œuvres de Schumann, Poulenc ou encore Brahms. Et nos rendez-vous habituels, 7h40, la revue de presse du jour et notre reportage depuis le festival La Grange au piano à la découverte de la musique secrète de Léonard de Vinci. À 7h50, le jeu de l'été pour gagner ce matin le dernier disque Schumann de la pianiste Claire Désert. À 8h, un point sur les informations avec Camille Marigot. À 8h10, notre Tour de France des festivals fera une jolie halte musicale avec Vincent Morel, le directeur artistique du festival Bac en Combrailles. À 8h25, place à la création, la jeune compositrice franco-espagnole de 28 ans, Clara Olivares, à l'honneur ce matin. Et puis à 8h30, notre entretien avec le musicien Carole Beffa pour toute son actualité estivale, y compris sa carte blanche au Festival du Périgord Noir. C'est ce week-end et c'est au tour du cinéma. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue et je vous souhaite surtout un très bon réveil avec France Musique. Thank you. reconstitution à partir du concerto pour deux claviers en ut mineur, ici concerto pour hautbois et violon en ut mineur BWV 1060 de Jean-Sébastien Bach. C'était l'Allegro, le premier mouvement que nous écoutions à l'instant, par l'ensemble Amaryllis, Héloïse Gaillard au hautbois baroque et Alice Pierrot au violon. 6 août 2021, belle matinée, en cette fin de semaine, savez-vous qu'il y a 56 ans, tout juste le 6 août 1965, sortait un nouvel album des Beatles, Help, leur cinquième album. Et sur ce disque, il y a cette chanson, composée par Paul McCartney, la chanson d'ailleurs la plus reprise au monde, et on ne va pas se priver de l'original, la vraie, l'unique. Bienvenue sur France Musique.
Yesterday, all my troubles seemed so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
Yesterday, Paul McCartney, The Beatles, et ce soir justement à voir sur Arte à 22h40, le documentaire de Ron Howard, The Beatles, Le Monde est à eux, 8 Days a Week, avec des images de tournée autour de 1965, à grand renfort évidemment de témoignages et images inédites, restaurées et collectées auprès des fans et des proches. C'est donc à voir sur Arte ce soir à 22h40, 7h39.
C'est l'été sur France Musique.
Et 7h39, l'heure donc d'ouvrir les journaux. Le site Olyrix nous apprend la nouvelle. Un nouveau directeur artistique pour le centenaire de l'opéra de Roumanie. Ethan Schmeiser deviendra donc le nouveau directeur artistique de cet opéra à Bucarest à partir de la saison prochaine et portera la programmation du centenaire de la Maison Lyrique. Début 2020, ce chef a choisi d'abandonner ses fonctions de chef de chœur justement et de directeur musical à l'opéra de Tel Aviv pour ne rester que chef d'orchestre, pianiste et soliste. Fils de deux parents nés en Roumanie qui ont choisi l'émigration en Israël avec leurs proches en 1961, Ethan Schmeiser, lui-même né en Israël, s'inscrit dans l'importante communauté roumaine d'Israël. Sa première saison comprendra notamment une nouvelle production d'Oedipe de Georges Enescu. De la Roumanie à la Seine-Saint-Denis, il n'y a presque qu'un pas. Enfin, en tout cas, Thomas Pesquet sera d'accord avec ce raccourci. Pour les JO 2024, une incroyable collecte de chants en Seine-Saint-Denis. Sous la plume de Pierre Punelli à Télérama, il nous raconte un beau projet de l'ensemble vocal Sequenza 9.3 qui invite les habitants du département à venir enregistrer des chants représentatifs de leur culture. Un objectif, créer la Cantate 2024, une œuvre musicale participative qui reflète ce territoire cosmopolite accueillant une partie des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Dès le mois de septembre, tous les habitants de Seine-Saint-Denis, les Séquano-Dionysiens, quel joli nom, de tous âges, sont invités donc à en venir enregistrer un chant a cappella cappella qui représentent leurs racines et leur culture. En plus d'accueillir de nombreux équipements olympiques, le territoire de Seine-Saint-Denis constitue un carrefour naturel des peuples. On y dénombre plus de 140 nationalités. Un formidable terreau de création, se réjouit Catherine Simon-Pietri, la directrice artistique du projet. Cette moisson de chants viendra nourrir donc cette œuvre musicale Cantate 2024, participative et donc diffusée avant et lors des Olympiades de Paris. Plusieurs compositeurs puiseront dans cette sonothèque pour constituer un ensemble de fresques sonores, des célébrations jouées dès l'an prochain en Île-de-France avec en ligne de mire la création d'un hymne, pourquoi pas, pour les JO parisiens. Et on l'a appris hier après une enquête qui avait été ouverte en avril 2018 en Allemagne. Une lourde amende a été infligée à des fabricants d'instruments qui se sont entendus sur les prix. Yamaha, Roland ou encore Fender ont notamment incité des commerces à ne pas vendre des violons en dessous des prix minimums fixés. Et elles devront donc payer, avec les magasins et des salariés, une amende d'environ 21 millions d'euros au total. Les fabricants et commerçants d'instruments de musique ont systématiquement et pendant des années agi de manière à limiter la concurrence sur les prix pour les consommateurs et ont même incité les principaux commerces à ne pas vendre en dessous des prix minimums fixés en utilisant même des logiciels de surveillance des prix de vente afin de s'assurer que les commerçants respectaient ces minimums convenus. Et de l'Allemagne à l'Indre, il n'y a aussi qu'un pas dans cette revue de presse. L'Indre où, il y a une dizaine d'années, le pianiste Cyril Huvet a racheté une grange dont il a fait sa résidence. On vous en parlait il y a quelques jours ici dans Musique Matin. Il en a fait aussi un lieu de concert. L'été s'y tient le festival de la Grange au piano et mercredi dernier, il accueillait l'ensemble Douce Mémoire avec une représentation autour de Léonard de Vinci. Car en plus d'être peintre, scientifique et bien d'autres choses encore, l'homme de génie était aussi musicien.
Il paraît qu'en regardant les tableaux de Léonard de Vinci, il est possible d'y entendre de la musique. Une musique secrète que Denis Rézindadre, directeur artistique de l'ensemble Douce Mémoire, a tenté de saisir en allant explorer les recueils de partitions de la Renaissance.
Il s'agissait de trouver exactement la musique qui pouvait être jouée au moment précis où Vinci était en train de peindre ses tableaux. Et c'est pour ça que ça a été un projet qui m'a demandé énormément de recherches, parce qu'il fallait vraiment que ville par ville, je consulte les manuscrits et je me dise, voilà, on jouait ça au moment où Léonard peignait tel tableau.
Et c'est l'occasion pour nous de, en fait, avec de la musique, d'imaginer ce que pourraient être les fêtes à la cour de Milan.
Le temps d'une soirée, ces pièces ont résonné dans la grange au piano, donnant au lieu des airs de cour milanaise. À chaque tableau, sa musique et en prime, quelques explications de Denis Rézindadre. Le public ressort conquis et instruit.
Et vous saviez, vous, que Léonard de Vinci était musicien ?
Absolument pas.
Non, un peintre, mais musicien, non, non.
Ah non, ah non, non. On savait qu'il faisait plein de choses, ingénieur, peintre, etc., etc. Et musicien, non, c'est une découverte.
Ils avaient creusé le sujet, quoi, on le sent. Et donc, oui, on avait une belle illustration musicale de ces chefs-d'œuvre.
On les verra autrement, les tableaux, ouais. Maintenant. Moi, j'ai envie de retourner au Louvre, les voir, et j'aurai eux dans l'oreille, en plus. Donc ça apporte une autre dimension au tableau.
Pour donner à entendre les œuvres du peintre, un instrument incontournable, la lira bras ou lira da braccio, dont Léonard de Vinci joue et sur lequel il improvise. Contrairement à ce que son nom indique, l'instrument n'a rien d'une lyre, mais plutôt d'un gros violon à sept cordes. Au XVIe siècle, il cédera sa place à la lira da gamba et aux luths et tombera peu à peu en désuétude. Aujourd'hui, ils sont sûrement moins d'une dizaine à savoir en jouer. Parmi eux, Nicolas Sansarla, de l'ensemble Douce Mémoire.
C'était un instrument qui était joué donc par ces 10 heures d'histoire. On racontait des histoires sur la place publique ou en privé. Et puis surtout, c'est avec des gens comme Marcile Fissin ou Pic de la Mirandole qui ont voulu rechanter ces hymnes orphiques en s'accompagnant à la lyra. Donc on a ces gens-là joué cet instrument. Et puis également les peintres, les architectes et tout ça. Dans chaque atelier de peintre, on avait sa lyra qu'on décrochait de temps en temps pour faire une pause et puis improviser une poésie, tout comme on le faisait dans les ateliers parisiens du XXe siècle avec une guitare accrochée au mur. Voilà, on décrochait l'instrument et puis on faisait sa pause.
De la lyra bras, il ne reste que peu de traces, tout comme la musique que jouait Léonard de Vinci. Mais ces tableaux, eux, demeurent. Alors si l'envie vous prend, allez les contempler, tendez l'oreille, et qui sait, peut-être y discernerez-vous quelques mélodies italiennes.
Un reportage de Flore Caron qui est évidemment à retrouver et écouter sur notre site francemusique.fr. L'ensemble Douce Mémoire se produira le 17 septembre prochain dans le Cher et le 18 septembre à la Ferté-Saint-Aubin. Un ensemble qui jouera des musiques contemporaines de Léonard de Vinci, donc à l'occasion d'un ciné-concert sur la vie du peintre. Et l'occasion pour nous, une nouvelle fois cette semaine, d'écouter un extrait de ce beau projet. Voici Tante Volte Si, Si, Si de Marchetto Cara avec la voix de la soprano Clara Coutouli.
Ti volte sì 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 e con cambio a perugno son cagion che mi rivo qui io non trovo il che non mu tante volte sì 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 e con cambio a perugno e ti cambio a perugno ogni giorno me di mando e con sì sempre mi man e per non certa paga ma chi ho tanto così tante volte sì, sì, sì e un cambio ave mondo ed in cambio ave mondo se il signor fosse presente come a tempo da vedere vivirei più lietamente con me toglie e me partire ma per sempre sì sì questo si non fa per me tanti volte sì 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 e un cambio del mondo ed in cambio del mondo
associé au tableau La Belle Ferronnière, portrait présumé de Lucrezia Crivelli dans ce beau projet La Musique Secrète autour de Léonard de Vinci par l'ensemble Douce Mémoire, dirigé par Denis Raisin d'Adre. Et dans ce projet, l'une des musiques est celle-ci de Marchetto Cara, Tante Volte Si, Si, Si. Et nous entendions la voix de la soprano Clara Coutouli avec les musiciens. Et 7h49, mais oui, ça y est, c'est l'heure de jouer, c'est à vous. Et ce matin, nous vous offrons le disque Schumann, œuvre pour piano de la pianiste Claire Désert, paru chez Mirare, pianiste qui sera d'ailleurs en concert jeudi prochain, le 12 août, à la Roque d'Anteron à 21h, un programme Debussy, Janáček, Bartok et Schumann, justement. Pour gagner ce disque, je vous laisse vous diriger vers l'onglet Contactez-nous sur la page de notre émission Musique Matin sur le site francemusique.fr. Je vais vous poser une question, à vous d'y répondre correctement. Évidemment, n'oubliez pas vos coordonnées, votre gentil mot sera donc accompagné de votre adresse. Lara Castiglione va les recevoir. N'oubliez donc pas de nous indiquer votre adresse, sinon elle ne pourra pas vous sélectionner. Voici donc la question. C'est en lien avec ce que l'on va écouter. Schumann, donc, par Claire Désert. Je vous donne le titre Vogel als Prophète, l'oiseau prophète. Nous allons l'écouter tout de suite. À vous de me dire de quel recueil elle est extraite. Tout de suite, une pièce pour piano tirée d'un recueil de Schumann. Mais de quel recueil s'agit-il? À vous de réfléchir et de me donner la bonne réponse.
Thank you.
Claire Désert au piano dans ce Vogel als Prophète, l'oiseau prophète de Robert Schumann. Vous êtes déjà quelques-uns à participer ce matin. Alors je sais, ce matin c'était un peu dur comme question. Promis, lundi je fais plus facile. En tout cas, je donne tout à l'heure la bonne réponse. De quel recueil est extrait cet oiseau prophète? Je donne la réponse juste avant 9h avec le nom des gagnants. 7h54, si vous êtes en Vendée dans les jours qui viennent, eh bien restez-y. La 15e édition des Escales lyriques de l'Île-Dieu vous attend et sont impatientes de vous retrouver. Concert donné les 10, 11 et 13 août avec Marie Perbost ou encore Marine Chagnon, entre autres. Un spectacle mis en espace par 20 ans Vincent Vitoz. Bulle de musique, c'est son nom. Un récital enivrant, frais et léger comme l'écume de mer pour fêter la liberté artistique retrouvée. Ça se passera les 10, 11 et 13 août donc au théâtre Le Casino sur l'Île-Dieu. Toutes les infos sur escale-lyrique, tout ça au pluriel.com. Marie Perbost, que nous avons déjà le plaisir d'écouter à Paris et ailleurs, nous aussi.
Les chemins qui vont à la mer ont gardé notre passage, des fleurs éphéliques sous leurs arbres, donnant de rire clair. Hélas, des jours de bonheur, radieuses joies envolées, je veux s'en retrouver.
Je
qu'elle est belle, cette mélodie. Les chemins de l'amour, texte de Jean Anouilh, musique de Francis Poulenc, ici merveilleusement portée par la voix de Marie Perboste, soprano, accompagnée par Joséphine Ambroselli au piano. Musique Matin, 7h59, on revient.
Ce soir, dans le concert à 21h, France Musique vous invite à une soirée Mozart du Festival International de Piano de la Roque d'Anthéron. Claire Désert, Emmanuel Strosser et Florent Beaufard interprètent une œuvre rarement jouée, le concerto pour trois pianos numéro 7. Et toujours avec le Sinfonia Varsovia et Jean-Jacques Kantorov, le fameux concerto pour deux pianos numéro 10. Mozart en direct de la Roque d'Anthéron. C'est ce soir à 21h sur France Musique et francemusique.fr.
Se vacciner contre la Covid-19, c'est se protéger, protéger les plus fragiles et pouvoir bientôt tous se retrouver. Qui peut se faire vacciner aujourd'hui? Toutes les personnes de 12 ans et plus. Alors n'attendez plus. Faites-vous vacciner. Vous pouvez vous renseigner et prendre rendez-vous sur santé.fr ou auprès d'un médecin, d'un pharmacien ou d'un infirmier. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé et de l'Assurance Maladie.
Vendredi 6 août, c'est l'heure des informations sur France Musique, il est tout juste 8h. À 8h, le journal vous est présenté par Camille Marigot. Bonjour Camille.
Bonjour Gabriel, bonjour à toutes et à tous. C'est donc un feu vert donné par le Conseil constitutionnel à l'extension du pass sanitaire. Les sages ont validé en grande partie le projet de loi censé encadrer ce dispositif qui sera désormais demandé pour prendre l'avion, faire de longs trajets en train, mais aussi aller dans un café, un bar ou un restaurant. Et depuis plusieurs jours, beaucoup de gérants du secteur s'interrogent sur la manière dont ils vont procéder à partir de lundi et s'attendent à vivre une fin d'été compliquée, comme Dominique Eudes, restaurateur à Granville et président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie de la Manche.
On n'est pas trop surpris du résultat de cette décision-là. De toute manière, nous, on est prêts à contrôler les gens. C'est sûr que c'est pas notre travail. C'est sûr que ça va être très compliqué. Il y a déjà des gens en réservation qui nous demandent est-ce que vous allez contrôler le pass sanitaire. À partir de lundi, bah oui, voilà. Et tout simplement, on va refuser énormément de monde et ça va être un mois d'août où pratiquement tous les collègues vont. Ça va pas être le chiffre d'affaires qui serait prévu, quoi. Parce que tout simplement, il y a des gens qui vont écourter leurs vacances. S'ils peuvent plus aller dans les bars ni dans les restaurants. Et puis bon, surtout une clientèle de jeunes qu'on n'aura pas, quoi. Il y en a beaucoup qui ont une dose et la deuxième, elle sera faite que fin août ou début septembre. Voilà, c'est ça le problème. C'est sûr qu'il y en a qui vont pas être contents, il y en a qui vont nous insulter, parce que ça arrive. Voilà, mais nous, c'est la loi, c'est la loi. C'est pas ce que ça va donner. Puis prendre un salarié à passer son temps à faire ça au lieu de faire du service, c'est compliqué.
Des propos recueillis par Denis Charpin de France Bleu Normandie. Le Conseil constitutionnel a en revanche supprimé du texte l'isolement obligatoire des personnes contaminées et la rupture anticipée des salariés sous contrat CDD ou intérimaire qui ne pourraient pas présenter de passe sanitaire. Cette décision des sages provoque la colère des opposants à l'extension de ce pass sanitaire. De nombreux appels à manifester demain ont été lancés. Les pompiers luttent toujours ce matin contre les flammes qui ravagent la Grèce dans la région d'Olympie où se sont déroulés les premiers Jeux Olympiques de l'Antiquité. Sur l'île d'Eubée, à 2 heures de route d'Athènes et au nord de la capitale sur le mont Parnasse où plusieurs villages ont dû être évacués hier. Le reportage sur place de Julie Pietri.
La colonne de fumée est impressionnante, elle est visible depuis certains quartiers d'Athènes. C'est la forêt de pins qui brûle depuis plusieurs jours. Sur la route des barrages que Mirales Vretos, adjoint sur la commune d'Aranon, nous a permis de franchir.
C'est terrible, je ressens de la détresse, de l'aigreur et de la culpabilité pour les jeunes, qu'on ait laissé les choses en arriver là.
Sur les bordures de la chaussée qui se fait plus étroite, des arbres calcinés, des carcasses de voitures, le chant des cigales a brusquement cessé et l'odeur de fumée prend à la gorge.
Vous voyez comme les avions volent bas pour être au plus près des flammes. Mais malheureusement, c'est insuffisant.
Une alarme retentit sur tous les téléphones, alerte des autorités, il faut évacuer le secteur rapidement. Yorgos est pompier volontaire.
Le feu est dangereux parce que la forêt est très dense et elle a subi une longue période de sécheresse et de canicule. Le degré d'humidité de la végétation est très bas. Les incendies sont extrêmement durs à éteindre ici.
Des dizaines d'habitants ont déjà été forcés de quitter leur maison. Tassos Cavallares veut lui rester le plus longtemps possible pour garder un œil sur son restaurant déjà endommagé par les flammes il y a quelques jours.
Avant-hier, je suis parti en dernier. Je ferai tout pour le sauver.
La situation évolue rapidement alors que les températures devraient encore atteindre aujourd'hui à Athènes les 40 degrés.
Le reportage de Julie Pietri et une enquête a été ouverte pour comprendre l'origine de ces feux. Aux États-Unis, de nouvelles évacuations ordonnées hier face à la propagation du Dixie Fire, autre gigantesque incendie qui en 3 semaines a déjà dévoré Greenville, localité de 800 habitants au nord de la Californie. Joe Biden offre un refuge aux Hongkongais qui résident actuellement aux États-Unis. Le président américain a ordonné qu'aucune expulsion ne puisse intervenir pendant 1 an et demi, annonce qui a profondément irrité le ministère chinois des Affaires étrangères qui dénonce une intervention violente dans les affaires de l'ancienne colonie britannique. En plein Jeux olympiques, le Japon se souvient ce vendredi du bombardement atomique du 6 août 1945 à Hiroshima. Commémoration marquée par cette polémique liée au refus du Comité international olympique d'appeler à une minute de silence en marge des épreuves. Des survivants, des proches et une poignée seulement de dignitaires étrangers ont pu assister à la cérémonie ce matin. Le temps aujourd'hui marqué par de nouvelles averses sur le tiers nord, du soleil sur le sud-est et un temps variable sur le reste du pays. Il fait ce matin entre 16 et 17 degrés sur la moitié nord et de 18 à 24 sur la moitié sud. Il est 8h passées de 5 minutes, l'heure de retrouver Gabriel Olivier Aguillon pour Musique Matin.
Merci beaucoup Camille Marguillon. On a hâte d'avoir un peu de soleil quand même.
Oui, hein, on l'attend.
Parce que là vous êtes aussi en veste, en foulard, enfin on a froid quoi. Merci beaucoup, très bon week-end.
À vous aussi.
Prochaines informations sur France Musique à midi.
C'est l'été sur France Musique. Le 7h30, 9h de Gabriel Olivier Aguillon, Musique Matin.
Et nous sommes ensemble encore pendant une heure. Notre invité arrive, lui, dans moins de 30 minutes. Le musicien Carole Beffa, il vient nous parler de sa carte blanche au Festival du Périgord Noir autour du cinéma, ainsi que de la création de plusieurs de ses œuvres cet été. Et comme chaque matin, une halte musicale du côté des festivals qui nous fait beaucoup de bien. On va chercher aussi un peu le soleil. Et ce matin, direction le Puy-de-Dôme pour le festival Bac en Combrailles. Ce sera dans 5 minutes. Et à 8h25, place à la création. 5 minutes de musique d'aujourd'hui. L'écouter autrement, la savourer, parce qu'elle est essentielle. Ce matin, celle de la jeune compositrice de 28 ans, Clara Olivares. Et bien voilà, vous savez tout. Bienvenue dans Musique Matin. Thank you. De l'harmonica et de la guitare sur France Musique Blackbird, un flamboyant arrangement de ce titre des Beatles, décidément, ce matin. C'était à l'instant Antoine Boyer à la guitare et Yeori Kim à l'harmonica, deux talentueux musiciens en concert dans le cadre du Festival du Périgord Pourpre, cette fois-ci un été musical en Bergerac. Ce sera, si vous voulez y être, le 9 août, lundi prochain, au château de Saint-Germain, en Dordogne, et ce sera à 21h, 8h10 dans quelques secondes. C'est donc l'heure de notre tour de France des festivals.
France Musique.
Et direction le Puy-de-Dôme ce matin avec notre petit vélo. Direction donc le Puy-de-Dôme pour le festival Bac en Combraille. Avec nous au téléphone, le directeur artistique de ce festival, Vincent Morel. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct sur notre antenne. Nous sommes partenaires de ce très beau festival qui commence demain et dure une semaine jusqu'au 14 août, une 22e édition qui, j'imagine, va avoir une saveur particulièrement heureuse vu que l'an dernier, le festival avait été réduit à 2 jours de concert.
Eh bien oui, exactement, on reprend nos marques dans les Combrailles avec finalement une édition qui est assez similaire à ce qu'on faisait avant. Voilà.
Mmh. Et alors Bach évidemment est au programme de vos concerts cet été encore, mais cette année une importance à ce beau projet, l'Auvergne, les Combrailles, forte et riche en musiciens, enseignants, résidences. C'est vraiment une manière de rappeler que le territoire de l'Auvergne, c'est l'identité forte aussi de ce festival.
Oui, effectivement, je pense qu'on ne peut pas concevoir un festival, en tout cas en milieu rural, sans se rappeler qu'il y a des gens qui vivent là, qu'il y a des musiciens aussi qui accessoirement font de la musique ici ou là, et toujours se rappeler qu'il faut se retourner vers son territoire pour aussi vivifier son propre festival. C'est la raison pour laquelle on a l'Orchestre National d'Auvergne, mais qui, pour le coup, lui, vient presque régulièrement depuis 20 ans. Et puis on a le chœur régional, des musiciens qui ont été formés à côté de Pont-au-Mur et qui ont fait un très beau spectacle autour de Bach qui va être programmé samedi prochain.
Et puis l'ensemble Les Timbres.
Voilà, bien sûr, l'ensemble Les Timbres qui est en résidence, Les Accents qui est un ensemble qu'on connaît bien et qui s'implante progressivement en Auvergne, déjà très implanté chez nos amis de la Chaise-Dieu. Et puis des gens comme Emmanuel Reich, qui est premier violon des Arts Florissants et qui en fait s'est formé en partie au conservatoire de Clermont-Ferrand.
Alors les concerts, oui, mais il faut savourer donc ce territoire dont vous parlez, territoire rural, prendre son temps ici au Festival Bach en Combraille, aidé par la musique de Bach, c'est comme une retraite en fait.
Oui, c'est ça, c'est peut-être presque, en tout cas c'est comme ça que moi j'aime bien le concevoir, une retraite spirituelle ou musicale, on va s'inspirer de ce petit mot. Pendant une semaine, on passe d'église en église, de petits lieux magnifiques, des lieux très humbles, hein, comme j'aime à le répéter, on n'a pas de château du XVIIIe siècle, pas d'abbaye du XIIe siècle, mais on a finalement un festival adossé à une certaine forme d'humilité de ces églises. Et le paysage, la musique, et une journée très dense, parce que on commence pas tous les jours, mais en tout cas certaines journées avec un café Bach à 10h30, à 10h, une audition d'orgue régulière à midi, un concert à 16h, un concert à 21h, et exceptionnellement cette année on n'a pas de nocturne, pour des questions de jauge, on ne pouvait pas se permettre d'ailleurs dans les très très petites églises, mais c'est une journée, c'est un festival dense.
Voilà. Premier concert donc demain à 21h par le chœur régional d'Auvergne, et puis bien sûr l'orgue de Pont-au-Mur, un orgue à tuyaux, une réplique unique au monde de l'orgue d'Arnstadt, premier instrument dont Bach a été titulaire en 1703. Qui pourrons-nous entendre en concert sur cet orgue lors de votre festival, Vincent Morel?
Alors, on a invité cette année des musiciens aussi de Pont-au-Mur, le professeur actuel de Clermont-Ferrand, qui est par ailleurs l'organiste de la cathédrale de Bourges, Olivier Salandini, son prédécesseur, François Clément, j'aime bien cette idée de filiation comme ça, François Clément, donc, est l'organiste de la cathédrale de Moulins, Alexis Droit, Axel de Marignac, qui est un jeune de Pont-au-Mur, qui est organiste à l'église de Pont-au-Mur et qui maintenant poursuit sa carrière au CNSM de Paris. Des gens qu'on connaît bien aussi, Aimeran Rollin, qui est directeur du festival de Rocamadour, qui a enregistré un magnifique disque sur Bach il y a quelques mois. Et puis Jean Lucot, qui est
l'habitude d'entendre chez vous.
Voilà, qui est un membre de la famille.
Voilà. Le public est curieux de voir cet orgue en vrai, avec cette histoire.
Ben oui, parce que quand on arrive dans les dans les Combrailles. On s'attend vraiment pas à trouver cet orgue qui, d'un point de vue sonore, est assez original et pour nos oreilles françaises. Mais même visuellement, on a une esthétique qui n'est pas du tout celle qu'on a l'habitude de voir à la fois dans nos églises, mais aussi dans les orgues français. Donc c'est vraiment un ovni artistique, mais c'est ça qui est beau finalement, c'est que entre Bach et les Combrailles, il y a pas d'histoire, et finalement on l'a
créé
avec cet orgue.
Bach jouait donc sur un orgue absolument semblable en 1703, il avait 18 ans. Et puis on va citer quelques noms de votre festival Bach en Combrailles et d'autres noms présents pour cette 22e édition: Alice Julien Laferrière, l'ensemble Elle Seule ou encore Damien Guillon et son Banquet Céleste. Lundi, le 9 août, en l'église de Pont-au-Mur, des cantates de Bach avec entre autres Céline Chin, ou encore le concert de clôture le 14 août avec Thibaut Noailly et l'ensemble Les Accents. Est-ce que la billetterie fonctionne? Vous sentez que le public répond présent déjà, sachant qu'il faut son pass sanitaire aussi?
Alors je me permets juste de rajouter aussi Pierre Antaille quand même, qui est un
absolument
grand français. Voilà, excusez-moi de rajouter
non,
ça.
Non, non, si, vous avez raison, c'est un oubli de ma part.
Mais oui, alors on est assez satisfait pour l'instant, la billetterie est plutôt satisfaisante, mais il y a encore beaucoup de place, hein, il faut rappeler qu'il y a encore beaucoup de place disponible. Le pass sanitaire a un tout petit peu ralenti la dynamique, mais finalement c'est pas mal, il faut que ça continue. Je viens de regarder la météo n'est pas si mal que ça la semaine prochaine. Un festival, c'est vraiment sous le soleil.
Je rappelle les dates donc de votre festival Bach en Combrailles. Il commence demain et continue jusqu'au 14 août. Samedi prochain, un festival en partenariat avec France Musique et on en est très heureux. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Vincent Morel. Très bon festival à vous. Et puis voici le Banquet Céleste. Damien Guillon à sa direction et la voix de Céline Chin. Bonne journée Vincent Morel.
Merci, bonne journée.
Thank you. Cosimi Disprezzate de Girolamo Frescobaldi, interprété par le Banquet Céleste dirigé par Damien Guillon, avec la voix de la soprano Céline Chine, des artistes en concert donc ce lundi dans le cadre du festival Bach en Combrailles. 8h19, merci d'être à l'écoute de France Musique. À l'affiche des concerts du jour sur notre antenne, 3 concerts inédits, rien que pour vous, alors que vous serez en train de vider ou remplir vos valises de l'été. 2 retransmissions de concerts captés récemment par nos équipes techniques. L'un à 16h, concert donné en septembre dernier ici à l'Auditorium de Radio France. Un programme Camille Pépin et Sergei Rachmaninov par la pianiste Anna Vitnitskaya, présenté par Aliette Delalleux. La pianiste sera accompagnée par l'Orchestre Philharmonique de Radio France, dirigé par Mikko Frank. Et puis un autre concert enregistré il y a peu, à 23h, un concert entendu il y a quelques jours à Jazz in Marciac, Jazz Migration et Oxy Jazz, présenté par Nathalie Piollet. Et puis nos micros sont aussi posés pour des concerts transmis en direct. Ce sera le cas à 21h, présenté par Jean-Baptiste Urbain depuis le Festival de la Roque d'Anteron, qui vous présentera le programme Mozart des pianistes Claire Désert, Florent Beaufard et Emmanuel Strozer, avec le Symphonia Varsovia dirigé par Jean-Jacques Kantorov. Mais ce matin, c'est la pianiste russe Anna Vitnitskaya que je vous propose d'écouter, celle que vous retrouverez donc lors du concert de 16h, ici dans le Capriccio en ut majeur, opus 76, numéro 8 de Johannes Brahms. Anna Vinitskaya dans le Capriccio en ut majeur opus 76 numéro 8 de Johannes Brahms. Merci d'être à l'écoute de France Musique. Il est 8h24, c'est notre grande et belle place à la création tout de suite.
Musique Matin.
Notre place à la création vous donne envie, je l'espère, d'écouter la musique de notre temps. Et ce matin, à l'honneur, Clara Olivares, une compositrice franco-espagnole née en 1993 à Strasbourg. Elle a achevé récemment son doctorat à l'université de Berkeley en Californie. Elle a reçu le titre de docteur en composition musicale. Des prochaines créations à venir lors du festival Musica à Strasbourg les 18 et 19 septembre prochains. Et ce matin, nous sommes heureux de vous faire découvrir, écouter en tout cas, une œuvre qu'elle a écrite pour Nouveaux Horizons, une création pour violon, alto et clarinette, à la demande, l'invitation de Renaud Capuçon et Gérard Cossé. C'était en octobre 2020. Une œuvre qui s'intitule « En un ciel inconnu, notre ciel est changé », interprétée par Raphaël Moreau au violon, Vladimir Persevitch à l'alto et Raphaël Sévère à la clarinette. Un texte, un titre emprunté à Lucrèce de son poème De Natura Rerum. La suite du texte est partout en un moment. Le virus propagé fond sur les eaux, s'abat sur les biens de la terre. Voici donc tout de suite Raphaël Moreau, Vladimir Persevitch et Raphaël Sévère dans cette œuvre de Clara Olivares. Thank you. Une création donnée en 2020 lors des concerts Nouveaux Horizons. À l'instant, une création pour violon, alto et clarinette de la compositrice Clara Olivares. En un ciel inconnu, notre ciel est changé. À l'instant, la violoniste Raphaël Moreau, l'altiste Vladimir Persevitch et le clarinettiste Raphaël Sévère. 8h29, eh bien c'est l'heure tout de suite d'accueillir notre invité en studio.
Musique Matin, le 7h30, 9h de Gabriel Oliver Aguillon.
Compositeur, interprète, improvisateur, écrivain, chercheur, conférencier, Carole Beffa est notre invitée. Bonjour Carole.
Bonjour Gabriel.
Nous allons parler ensemble aujourd'hui de musique, de clarinette, du Périgord, de création, de livres aussi et puis bien sûr de cinéma. Demain débute votre carte blanche sur 3 jours au sein du Festival du Périgord Noir, les 7, 8 et 9 août. Donc on va préciser tout ça, des ciné-concerts, des accompagnements improvisés, des lectures de Baudelaire et puis également des discussions autour de votre livre Anagramme à 4 mains que vous avez donc co-écrit avec Jacques Perry-Salkoff. Et puis évidemment la création de l'une de vos œuvres, Vertigo par Pierre Génisson et le Quatuor Hermès. Carole Beffa, ça fait presque maintenant près de 15 ans que vous êtes invité régulier et fidèle de ce festival du Périgord Noir. Qu'est-ce que vous y trouvez qui vous ressemble tellement ?
D'abord, une diversité de programmation qui va de la musique ancienne, baroque, notamment jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, pour moi, c'était l'occasion de faire beaucoup de ciné-concerts, d'explorer un répertoire qui n'est pas toujours très connu des cinéphiles, encore moins des mélomanes, celui du cinéma muet, des chefs-d'œuvre du cinéma muet des années 10 et 20. Et puis, c'est aussi une histoire d'amitié. C'est une question qu'on pose parfois aux compositeurs, de la part de jeunes compositeurs, de jeunes interprètes, c'est comment est-ce que on fait pour percer. Alors on peut dire, on a beau dire, mais ce qui est important si vous êtes un interprète, c'est d'essayer de jouer le mieux possible, de vous rapprocher des œuvres, de lire sur les œuvres. Si c'est un compositeur, de dire, eh bien, d'essayer d'écrire la musique la plus inspirée, la plus belle qui soit, ça sera toujours une réponse insuffisante, parce que il faut que vous tombiez sur quelqu'un qui vous fait confiance. Et je dois dire qu'avec à la fois le président et la directrice artistique de ce festival, donc Jean-Luc Soulet,
et Véronique Yachou,
voilà, effectivement, j'ai entendu ça. J'ai 2 personnes qui m'ont fait confiance et qui me font confiance dans la programmation des films muets que nous avons projeté depuis 15 ans. Donc, je les remercie.
Le cinéma qui fait partie intégrante de votre travail d'artiste, vous improvisez donc très régulièrement sur des films muets, par exemple ceux de Charlie Chaplin ou encore Buster Keaton. Quels sont vos compositeurs de musique de films préférés ? Je sais que parfois cette expression peut agacer parce qu'on est compositeur tout court. Est-ce que vous avez vous-même des gens qui vous inspirent ?
Alors,
pas spécialement pour vos improvisations, mais juste dans vos goûts personnels.
Ça sera plutôt des anciens. Alors, Vertigo, vous en doutez, on aura peut-être l'occasion de parler, c'est évidemment un clin d'œil à Hitchcock et à Bernard Herrmann. Donc Bernard Herrmann, peut-être le plus grand des compositeurs de musique de film du XXe siècle. Un compositeur qui s'est illustré évidemment surtout de la musique pour le concert, mais qui a aussi fait des musiques de film, Shostakovich. Et pour ceux qui ont vraiment fait de la musique de film, j'ai des goûts finalement assez classiques, Morricone, Nino Rota, bien sûr, Georges Delerue, que j'ai même eu la chance de côtoyer un tout petit peu, oui. Plus près de nous, Michel Legrand, et dans un style un peu à part, Vladimir Kosma. Je crois que j'ai des goûts très classiques en la matière.
Et il y a aussi des réalisateurs qui nous prouvent que la musique de leur film peut être en fait composée d'œuvres préexistantes. Je pense à Kubrick ou encore Scorsese. Ça vous parle, ça aussi?
Oui. Kubrick, avec Ligeti notamment. Oui. Vous prenez effectivement 2001, l'Odyssée de l'espace, donc film de 68, pour lequel Kubrick, après avoir demandé une musique à Alex North, lui fait le mauvais coup de ne pas utiliser sa musique du tout pour le film. Ce que le compositeur apprend lors de la première, semble-t-il, et tombe dans une dépression assez grave. Mais ça nous a permis de mieux connaître, nous, mélomanes ou cinéphiles, la musique de Ligeti, dont Kubrick utilise à peu près 25 minutes de son œuvre, sans vraiment lui demander l'autorisation pour la partie qu'il trafique d'ailleurs électroniquement. Kubrick, c'est vraiment le cas, vous avez raison, du compositeur qui, à partir d'un certain moment dans sa carrière, décide finalement que les musiques préexistantes ne sont pas mal du tout et que il peut tout à fait s'en les utiliser et n'utiliser qu'elles pour illustrer ces images. Scorsese fait la même chose avec souvent des clins d'œil, lui beaucoup plus au jazz, à la pop, à la variété. Donc oui, vous avez raison, c'est vraiment deux compositeurs qui étaient très mélomanes, mais qui n'ont pas toujours ressenti le besoin de faire appel à des compositeurs pour leur musique.
Deux réalisateurs d'ailleurs, vous avez dit deux compositeurs, oui. Mais c'était un joli lapsus. Alors on va revenir sur Bernard Herrmann, sur votre création Vertigo, un beau clin d'œil. C'est une commande de Pro Quartet, une œuvre qui va donc enfin pouvoir être créée par Pierre Génisson à la clarinette et le quatuor Hermès. Vous en êtes heureux
J'en
de
suis
l'entendre
heureux.
Enfin.
Tout à fait, effectivement.
Ça a été repoussé plusieurs fois.
Ça a été repoussé plusieurs fois, comme pas mal d'œuvres que, que nous avons écrites, compositeurs, et qui ont dû attendre avant d'être créées. Alors, effectivement, bon, c'est une œuvre en quatre mouvements, assez différents les uns des autres, avec quelques clins d'œil aux musiques populaires, en l'occurrence au klezmer pour l'un des mouvements. Bon, pourquoi Vertigo? D'abord, c'est un titre qui sonne bien, c'est ce qui est important. Et évidemment, il y a ce clin d'œil à Hitchcock. En forçant peut-être un tout petit peu le trait, je dirais que pour l'un des mouvements, j'ai essayé de trouver une analogie acoustique, enfin sonore, à ce procédé que, semble-t-il, Hitchcock est le premier à utiliser pour la première fois, enfin, il est le premier à utiliser dans son film, le premier dans le cinéma, qui est ce qu'on appelle le travelling contrarié, le fait d'avoir, pour un même plan, un zoom qui va dans un sens et un travelling qui va dans l'autre sens. Musicalement, vous pouvez avoir quelque chose d'un peu semblable, comme une espèce d'effet stroboscopique. Ce que je fais dans un mouvement, je vais pas essayer d'entrer dans les détails, ce que j'ai voulu, c'est avoir une musique de climat, peut-être, une musique plus de sensations que de sentiments. Il n'y a pas tellement de sentiments dans cette musique. Il peut y avoir de l'émotion, j'espère que les auditeurs en ressortiront un certain nombre. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai voulu vraiment avoir une musique d'étape, peut-être comme on en trouve de temps en temps chez les compositeurs de musique de film, avec un mouvement très contemplatif et d'autres beaucoup plus énergiques, beaucoup plus motoriques, un peu selon cette distinction que je reprends à Ligeti entre le clouds, musique donc vraiment de la contemplation, musique de l'harmonie, musique très souvent immobile, statique, et le clocks, musique d'horloge, donc beaucoup plus pulsée, beaucoup plus rythmique.
Mécanique, ouais. Donc, dans cette œuvre-là, cette création, ce dimanche 8 août, dans le cadre de votre journée Silence, ça tourne, lors de votre carte blanche au Festival du Périgord Nord, ce sera à 18h par le Quatuor Hermès et Pierre Génisson, la clarinette que l'on retrouve souvent dans vos œuvres. On va en écouter la preuve. Thank you. le dernier mouvement de Feu d'artifice intitulé Rythmique pour quatuor de clarinette, une œuvre de Carole Beffa qui date de 2012 et c'était à l'instant la version du quatuor Vendôme. Carole Beffa, notre invitée ce matin, la clarinette. Pourquoi ?
Bah parce que c'est un
vous composez
instrument.
Beaucoup pour elle.
Oui, c'est vrai. Remarquez que je ne suis pas tout à fait le seul. Si vous prenez le 19e siècle,
la musique
de chambre est souvent avec clarinette, alors qu'il existe de très bons instruments qui s'appellent la flûte, le hautbois, le basson, pour ne prendre que les
mais
bois.
Mais vous, pourquoi ?
Parce que c'est d'abord... Ça permet toutes les souplesses, toutes les agilités. Je crois que c'est très bien pour les déhanchements rythmiques. C'est vraiment l'instrument avec lequel vous pouvez faire des choses rythmiquement chaloupées. Et puis, c'est incroyablement virtuose. Mmh. Ça a aussi un ambitus extrêmement large, 4 octaves à peu près, ce qui fait que vous pouvez demander n'importe quoi à un clarinettiste ou presque.
Surtout à des gens comme Nicolas Baldero, entre autres.
Exactement.
Lundi. Et il y a un emballement frénétique là-dedans, un mécanisme dont on parlait qui est assez proche de la musique de Ligeti.
Tout à fait.
Carole Beffa.
Ou de parfois Hermann, mais vous avez raison, c'est très ligetien dans ce côté mécanique, presque machinal même, avec une espèce de course folle où on essaie d'être dans la surenchère permanente. Ça commence effectivement à être motorique et puis au fur et à mesure, l'énergie devient contagieuse et tous les musiciens sont comme touchés par elle.
C'est vrai, ben nous aussi. Le cinéma de Carole Beffa, on va poursuivre sur ce thème de la première journée de votre carte blanche au cinéma, au festival pardon, du Périgord Noir. C'est donc demain, dimanche, ce sera Silence, on tourne. Et puis lundi, journée littéraire. La journée littéraire autour de votre livre d'anagramme. Vous m'aviez dit que vous en avez trouvé un sur Musique Matin.
Tout à fait.
Alors, j'aurais espéré que vous en trouviez un sur Gabriel Oliver Aguillon, mais c'est peut-être pas évident.
D'abord, je veux dire qu'en général, ces anagrammes, c'est mon co-auteur Jacques Païsalkov qui est le génie absolu des anagrammes qui les trouve, et c'est ce qu'il a fait avec Musique Matin.
Ah, c'est lui, c'est de lui.
Toute une très belle anagramme qui est Minuit Masqué, ce qui est, je crois, de saison.
Mais c'est beau cette histoire,
n'est-ce
Minuit Masqué, on va l'appeler comme ça cette émission. Donc pour Gabriel Oliver Aguillon, il n'a pas trouvé.
Mais vous avez deux G, vous avez un Y, c'est difficile, mais on va essayer d'en trouver une quand même.
Alors, les anagrammes, mais aussi Baudelaire, le comédien Thibaut de Montalembert, que l'on connaît bien entre autres pour être Mathias Berneville dans la série 10%, lira avec vous lors de ce festival du Périgord Noir des extraits des Fleurs du Mal. Donc vous serez au piano. Des improvisations ou certaines de vos partitions écrites ?
Non, ce sera que des improvisations. Ce que j'aime faire en général quand j'accompagne des textes, avec cette idée qu'on ne sait quasiment pas ce que l'on fera du début jusqu'à la fin. Bien sûr, ce sont des textes de Baudelaire que je connais. La sélection,
oui, j'allais vous poser
c'est Thibaut qui l'a faite, mais bon, elle est parfaite d'ailleurs, avec aussi bien de la prose que de la poésie. J'aime quand j'improvise et qu'il s'agit d'une improvisation pour accompagner un film ou pour accompagner des lectures de textes, vraiment me laisser porter par alors soit le flux filmique quand il s'agit de cinéma, soit les mots, et quels mots avec Baudelaire. En l'occurrence, le fait d'avoir cette alternance ou quasi-alternance entre rime, vers on va dire plus généralement, et prose, fait que le lien que peut accorder la musique est une chose que l'on trouve, je pense, vraiment en fonction de ce qui est dit par le comédien. En l'occurrence, Thibaut de Montalembert, de sa très belle voix, sa voix toujours très juste, porte, je crois, à merveille ces textes qui sont tous des chefs-d'œuvre. Et donc, je pense que je n'aurai pas de mal à trouver les ambiances musicales.
Ce sera à 20h lundi à Chartreuse des Fraux dans le cadre du festival du Périgord Noir. Une centaine de poèmes qui racontent, pour ces fleurs du mal, qui racontent l'itinéraire spirituel d'une âme qui tombe, d'un esprit qui chute, du spleen et l'idéal à la mort. La sélection, on va retrouver tout ça, le vide, l'abîme, la mort, la tristesse, tout est là, tout va être là.
Oui, alors certains poèmes, fort heureusement, ont quand même une petite touche d'espoir, mais c'est vrai que l'optimisme est beaucoup moins présent que le pessimisme chez ce poète en particulier. Il y aura effectivement tout cela, un peu, j'espère aussi, de musique consolatrice pour accompagner ces vers qui peuvent l'être aussi parfois.
Donc là, vous partez vraiment de zéro, entre guillemets, pour vos improvisations, ou est-ce que quand même vous avez lu sa sélection de poèmes, justement, de Baudelaire, et vous avez commencé un peu à réfléchir à vos thèmes ?
J'ai lu sa sélection, mais je n'ai pas réfléchi aux thèmes.
D'accord.
Je serais aussi surpris que pourra l'être le public qui l'entendra.
Carole Beffa, est-ce que vous êtes parfois un peu plus content de vous que d'autres fois ?
Oui, je suis parfois beaucoup plus mécontent de moi que d'autres fois, en tout cas, oui, c'est vrai.
Le festival du Périgord Noir, vous en êtes fidèle, mais aussi fidèle à des interprètes et inversement, un ensemble que j'aime beaucoup, que l'on va écouter maintenant, par leur diversité, leur jeunesse, leur fraîcheur, leur intelligence, c'est l'ensemble Contraste de Joanne Fargeau et Arnaud Torrette. Les voici dans un extrait de votre disque Into the Dark. Bon, après le spleen et la mort de Baudelaire, on reste dans le sombre, hein, l'anxiété, le tumultueux. Ça révèle quoi de vous, Carole Beffa?
Mais c'est vrai que mon éditeur, Biodôme, m'avait dit à un moment, faudrait que tu arrêtes avec les titres dans lesquels il y a sombre, dans lesquels il y a dark, etc. Bon, je pense que, alors même si compositeur est peut-être l'un des plus beaux métiers au monde, c'est aussi une activité solitaire, souvent légèrement déprimante, voire dépressive, parce que l'angoisse de la page blanche est une chose que je crois que chacun d'entre nous peut avoir, et doit avoir d'ailleurs probablement pour être capable de créer quelque chose dont il soit un peu satisfait les minutes qui suivent.
Mmh. Alors, de dépression, dépressive, vous égayez, comment vous retrouvez la joie?
Ah ben, la joie, d'abord, on la trouve dans le fait de voir ses amis. Je pense que c'est ce côté dépressif, je voudrais pas noircir trop le trait, mais il est lié en particulier vraiment à la solitude.
Oui, bien sûr, on comprend.
Le fait qu'un compositeur, contrairement à ses confrères interprètes qui ont, quand ce n'est pas une période de pandémie, la chance de pouvoir jouer devant un public, le compositeur, lui, assez peu confronté à son public, il est un peu trop souvent dans sa tour d'ivoire. Le fait pour moi d'être aussi interprète et surtout improvisateur me permet de jouer avec d'autres et de jouer pour des autres, et c'est vraiment important. Thank you.
Un extrait du concerto pour harpe et orchestre à cordes de Carole Beffa, interprété par Emmanuel Cesson à la harpe. L'ensemble contraste dirigé par Joanne Fargeau. Une œuvre, Carole Beffa, que vous avez composée en 2013. On est très loin de la musique de Ligeti, là.
On est très loin de la musique
très
de
doux,
Ligeti.
Très doux, très beau.
Oui, merci.
Vous êtes avec nous à l'occasion de vos 3 jours de carte blanche dans le cadre du Festival du Périgord Noir. Une carte blanche qui commence ce week-end, samedi, dimanche et lundi. Et puis d'autres actus un peu plus tard au mois d'août, le 15 août, au Festival des Heures Musicales de Cuneau, une autre création, cette fois-ci un trio.
Tout à fait, avec un titre dans lequel le sombre a aussi sa place, puisque c'est cette obscure clarté.
Et puis le 29 août à Mulhouse, où là aussi il y aura des concerts d'improvisation.
C'est ça, un concert d'improvisation. Et puis, deux instrumentistes, violon et violoncelle de l'orchestre de Mulhouse, joueront mes masques, masques 1 et 2.
1 et 2. Et puis, à la rentrée, on ne vous arrête plus, Carole Beffa, en octobre, paraîtra sur le label Clart, toujours un disque monographique, musique vocale et chorale, avec la soprano Jeanne Gérard, Arnaud Torette à l'alto, et un ensemble vocal dirigé par Lionel Sceau, et vous-même au piano. La voix, donc, ce sont des textes. Comment, Carole Beffa, choisissez-vous les textes que vous mettez en musique? En l'occurrence, pour ces œuvres-là de votre prochain disque.
Oui, alors, deux d'entre eux, pour la musique chorale, c'est du latin. Pour un De Profundis et un Media Vita. Deux autres textes sont de superbes poèmes d'Apollinaire, qui sont liés à une commande pour le concours de chant de Mâcon. Où l'idée, assez curieuse d'ailleurs, mais qui m'était imposée par le commanditaire, c'était qu'il s'agisse de musique en langue française et qui soit dans le domaine public. Et Apollinaire l'est depuis un certain temps, ça tombait bien. J'ai pris deux textes assez contrastés, mais pour lesquels, dans les deux, la figure du double est importante. Et puis à côté de cela, il y a eu aussi une autre commande pour... un cycle de 4 poèmes, chantés également par Jeanne Gérard, qui sont d'une poétesse chinoise du XIIe siècle, mais dans leur traduction anglaise, parce que je ne vous cache pas que mon mandarin est un peu rouillé.
En fait, il n'est jamais... Le nôtre aussi.
Donc voilà, très beau texte, que ceux-là qui décrivent d'une certaine façon la naissance, la persistance, le déclin et la disparition du sentiment amoureux comme autant de saisons, depuis le printemps jusqu'à l'hiver.
Merci beaucoup Carole Beffa. On va écouter une dernière œuvre de vous, mais avant ça, notre question de l'été à chacun de nos invités pour vous connaître un peu mieux et autrement. Carole Beffa, vous iriez où, avec quelle musique et accompagnée de qui?
Alors, j'irai, je crois, au Bœuf sur le Toit avec Maurice Ravel, qui soit jouerait sa propre musique, soit improviserait dans un style un peu jazzistique.
Merci beaucoup, Carole. On va écouter un extrait de votre dernier disque paru l'an dernier, Talisman, Destroy, par le quatuor Renoir et vous-même au piano. On a l'impression d'entendre un peu d'électro. C'était un peu l'idée?
Oui, c'était un peu l'idée, vous avez raison.
On va écouter ça. Merci d'avoir été avec nous. Très bon concert, festival, création, tout cet été, Carole Beffa.
Merci. Thank you.
Destroy, une composition de Carole Beffa, interprétée par le quatuor Renoir, et le compositeur lui-même au piano. Eh bien, notre musique matin, notre minuit masqué, me disiez-vous, Carole Beffa, s'achève ainsi. Je vous donne la réponse à notre jeu de tout à l'heure, 7h50. Il s'agissait du cycle Scène de la forêt, Waldszenen, l'opus 82 de Schumann, dont nous entendions l'une des pièces. Merci à vous de jouer avec nous chaque matin. Bravo à vous qui recevrez donc le disque Schumann de Claire Désert. Chez vous très bientôt, Jean-Philippe à Mont-Saint-Martin, Dominique à La Roche-sur-Yon et Catherine à Strasbourg. Je vous souhaite un très beau week-end à l'écoute de France Musique. Je suis très heureuse de vous retrouver lundi à 7h30. Nous recevrons le violoniste et directeur musical de l'ensemble d'Hydro, Johannes Pramsoller, qui sera avec nous dès 8h30. Elles ont bien mérité leur week-end. Elles aussi, merci à la fine équipe féminine de Musique Matin, Élise Lejeune et Lara Castiglione, ainsi que Taïsia Froidure à la réalisation. À la technique avec nous ce matin, Jean Frédérics, et puis à la cabine, eh bien, je ne sais plus. En tout cas, merci à vous deux. Voici tout de suite le joli programme musical de Charlotte Landru, Chandès. Bonjour Charlotte.
Bonjour Gabriel.
Et en plus, vous ne serez pas en week-end puisque vous travaillez aussi ce week-end. Vous serez sur notre antenne.
Et oui, exactement. Je vous donne d'ailleurs dès maintenant rendez-vous demain soir 20h pour un Don Giovanni de Mozart.
Merci. Bonne émission, Charlotte.
Merci.
À réécouter sur francemusique.fr.